au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le bonjour, le goutti morier, les vies grossiers, au lèple, von unserem glänzend Radio Center, Welle 102.9, Radio Judaïka. En cette fin de matinée, j'ai fait une place, comme le fredonne notre crooner Julien Clerc, j'ai fait une place à une très grande dame de la gastronomie, celle qui a dompté le crocodile avec son mari, que toutes les brigades ont appelé respectueusement Monsieur, Monsieur Leung. L'enchanteur Émile Leung est parti comme une plume voyager sur toutes les étoiles de notre galaxie. Sa tendre épouse, Monique Leung, est à nos côtés devant cette forêt de micros de Radio Judaïka. Un grand merci, chère Monique, d'être à mes côtés. J'avais tellement envie de vous inviter depuis si longtemps. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alors, comment vous gazouillez dans votre monde de la gastronomie et de tous les jours?
D'abord, je voudrais te remercier, cher Dédé, puisque depuis tant d'années que nous nous connaissons, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir parler du livre et puis un peu de notre passé.
De notre passé, parce qu'on se connaît, c'est vrai que depuis bien longtemps, on a fait beaucoup d'émissions de télévision avec vous-même et avec votre mari. Alors, vous êtes en ce moment dans le feu de l'actualité, vous avez sorti un nouveau livre. Alors, parlez-moi un peu de ce livre. Je vois qu'il est lourd, c'est une Bible.
Oui, c'est une Bible. Et bon, d'abord, je voudrais dire que ce livre, s'il a pu se faire, c'est à la demande de M. Jean-Paul Burus, l'actuel propriétaire donc, du Crocodile, qui avait le souhait de se raccrocher à notre histoire. Donc, lorsqu'il m'a évidemment fait cette proposition, j'ai répondu très rapidement oui, par oui. Et j'ai surtout aussi exprimé le désir de le faire avec Maurice Roquel.
Qu'on connaît tous ici,
voilà,
Maurice,
que tout le monde connaît. Ouais, Maurice est non seulement journaliste et juriste, mais depuis l'âge de 27 ans, il était, je crois, au syndicat des restaurateurs. Et c'est à lui qu'on doit effectivement, et également à Fernand Michler, la création de Unicet et de tout ce qui s'est passé après.
Alors, ce beau livre que j'ai devant mes yeux, Monique, ce n'est pas un livre de recettes. Je crois que ce n'est pas un livre de recettes.
Non, pas du tout. Ce n'est pas un livre de recettes, même s'il y en a quelques-unes pour quand même agrémenter la lecture. Mais c'est surtout un livre de témoignages.
Je crois de savoir-vivre.
Non seulement de savoir-vivre, mais aussi de savoir-être. Parce que je crois que le titre parle de lui-même, au crocodile, une école de vie. Je pense pouvoir dire que, effectivement, cette maison restera peut-être à tout jamais une référence.
Évidemment, à Strasbourg, Strasbourg. Et à travers le monde.
Oui, d'abord pour tous ceux qui y ont travaillé et qui ont participé à cette école de vie et qui ont grandi en même temps que nous et qui sont aujourd'hui des transmetteurs. Et parce que, bon, mon mari et moi, nous avons plus ou moins quitté la scène. Bon, moi, je reste encore un des derniers témoins. Mais je pense que...
Dont le bouquin, dont le livre.
Dont le livre. Et tous nos collaborateurs qui sont devenus aujourd'hui, eh bien, écoutez, des successeurs, si vous voulez, de cette école de vie et qui vont certainement continuer et qui continuent déjà de semer également tous les conseils dont ils ont bénéficié.
Alors Monique, ce livre, il fait presque 400 pages. Il pèse combien là?
1,7 kg.
C'est incroyable,
oui,
ça.
Oui.
Et alors, il y a des anecdotes, il y a pléthore de souvenirs dans ce livre.
Évidemment, écoutez, 38 ans de vie, nous avions 30 ans quand nous avons pris le crocodile.
C'était en quoi, en 71?
Le 10 septembre 71.
Ah, ouais.
Donc imaginez-vous tout ce qui a pu se passer en 38 ans. Il y avait quand même... si vous voulez, des événements aussi bien politiques, climatiques, et puis plein d'autres choses. Dans une maison comme le crocodile, on traverse des périodes de joie, des périodes de bonheur. On a tellement de collaborateurs qui sont un peu comme nos enfants et qui vivent eux aussi des problèmes dont nous sommes également... Nous partageons, si vous voulez, toutes les peines et tous les chagrins. Et ce qui fait que dans ce livre, il y a beaucoup d'émotions.
Beaucoup d'émotions. Oui. Alors l'émotion, vous la retrouvez aussi parce que vous êtes en plein de dédicaces en ce moment. C'est un nouveau métier pour vous de signer des livres et d'y mettre une petite bafouille.
Ben, écoutez, je vous dirais que c'est... Bon, effectivement, c'est un plaisir de rencontrer des gens qui ont...
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens ?
Ben, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ben, ils me disent qu'ils regrettent tous cette époque.
Ben oui.
Ben, comme...
C'était mieux avant ?
Écoutez, évidemment, tout le monde dit toujours que c'était mieux avant. C'est normal, parce qu'on traverse des périodes où on grandit ensemble. Et puis, à un moment donné, il faut que je reconnaisse moi-même que, de temps en temps, il m'arrive aussi de penser que c'était mieux avant.
C'était mieux avant,
parce que la vie était plus structurée. Il y avait tellement d'autres choses qui ont changé aujourd'hui. Et puis bon, il faut s'adapter.
On mange non plus de la même manière. Hein. C'est vrai que...
On mange plus de la même manière, on travaille plus de la même manière, on se divertit plus de la même manière. Ouais. Mais c'est comme ça, je crois que toutes les générations vivent ces changements. Lorsque j'entendais mes parents qui parlaient de leur époque, évidemment, elle était beaucoup plus douloureuse parce qu'ils ont passé deux guerres. Moi, j'ai encore des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'à la fin de la guerre, j'avais 5 ans. Donc, je pourrais dire aussi que c'était différent, parce que, vous savez, on n'avait plus rien. On jouait avec 3 fois rien et nous étions heureux.
On était plus heureux, oui. On était heureux différemment.
Différemment.
Avec moins de choses, oui, c'est vrai.
Maintenant...
Alors, pendant toute cette manière d'écrire, cette manière de dédicacer votre livre, je sais aussi que vous avez une belle plume. Vous aimez écrire, Monique.
Oui,
vous êtes une poétesse.
Écoutez, Émile était un poète à sa manière.
Ah oui, on en parlera un peu plus tard.
Moi, je l'étais à la
mienne. Vous étiez dans la salle, quoi.
Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé lire, écrire. Émile aussi, c'est ce qui a peut-être fait
la... il adore la... Il est très cultivé.
Hein. Oui, Émile. Mais Émile avait un avantage, c'est que tous les après-midi, après son service, il rentrait chez nous à la maison... Il se réfugiait dans son univers et puis bon, il lisait dans le calme. Moi, malheureusement, je n'avais pas ce privilège parce que j'arrivais le matin entre 9h30 et je quittais le Crocodile à minuit, souvent 1h du matin. Et après le service, le matin, j'étais dans le bureau. Après, j'allais au service. Ouais. Après le service, je remontais au bureau et de nouveau le service du soir. Mais ça ne m'a jamais beaucoup pesé puisque j'aimais.
Le contact avec les gens, les rencontrer. Et alors, tout était nickel, tip-top chez vous. Les nappes étaient repassées, même le personnel, il y avait un briefing, vous mettiez des petites cravates en place, les schlupfs pour les filles, tout ça.
Écoutez, je crois que ça fait partie un peu de mon caractère. J'étais un peu maniaque et j'aimais l'harmonie. Et tout ce qui n'était pas, si vous voulez, harmonieux, me dérangeait.
Le beau, vous aimiez le beau.
Voilà, j'aimais le beau, sans exagération, mais j'aimais l'unité, j'aimais l'harmonie, j'aimais cette douceur que procure l'harmonie.
C'est beau. Alors là, Monique, pour parler un peu de douceur, on va écouter une petite musiquette pour reposer les oreilles. Vous m'aviez demandé Petite Fleur, on va écouter ça avec intérêt. Vas-y Thomas, mets-nous voir Petite Fleur. C'est joli, hein?
C'est très joli. Et je vais vous dire pourquoi je souhaitais cette chanson. Vous trouverez d'ailleurs un passage dans ce livre. Et c'est Isabelle Chalaï qui, en fin de compte, parlera...
Notre collègue de l'autre côté de la radio, de Radio France Bleu.
Alors, figurez-vous, Émile avait souvent tendance à appeler chaque femme
petite fleur. Ouais, je sais.
Mais aucune ne savait, chacune croyait qu'elle était la petite fleur préférée d'Émile. Et en fait,
c'est un coquin, il disait
femmes. Oui. Alors, Isabelle Salaï a trouvé la réponse. Elle a dit, évidemment, Émile Comy ne se rappelait pas toujours des prénoms.
Alors,
il appelait chaque femme ma petite fleur. Ah, et moi, ça m'a toujours amusée, parce que chacune me chuchotait parfois à l'oreille. Oh, moi, j'ai de la chance, je suis la
petite fleur
d'Émile. Et puis bon, il avait même, je pense qu'il était quand même très sincère, parce qu'il avait un contact
charmant,
toujours très gentil.
Ouais. Ah,
et puis bon, il savait...
Affectueux même.
Oui, 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 il savait... Utiliser les mots.
Les mots qu'il fallait. Mais... Alors, vous étiez fusionnelle pendant 38 ans avec votre mari. Vous travaillez main dans la main au service de la gastronomie étoilée. C'est quand même pas rien, quoi.
Non, 38 ans, c'est pas suffisant. Il y a eu 38 ans de crocodile.
Oui, mais c'est ça, je voulais dire par rapport à votre travail.
Par rapport au crocodile.
Au crocodile,
mais bon,
ouais.
En fin de compte, on a travaillé beaucoup plus que ça, puisque je suis restée 8 ans à Mazo. Donc, ça fait plutôt 46 ans
que nous avons
travaillé ensemble.
Et à Mazo, vous étiez déjà au service d'un restaurant vous travaillez
dans un restaurant. C'était le restaurant familial d'Émile.
D'Émile, ouais.
Et puis, bon, c'est là où nous avons décroché la première étoile à l'âge de 24 ans.
Ce qui extraordinaire, était
les plus jeunes étoilés d'Alsace. De
cette période.
Pas d'Alsace, un des plus jeunes étoilés.
Pardon, ouais.
De cette époque. Mmh. Et puis, bon, je dois dire que c'était également une belle aventure. Parce que dans le fond, c'est à Mazo. Bon, moi, j'ai travaillé 5 ans, évidemment, avant, encore dans le métier. J'ai fait l'école hôtelière, évidemment, ce qui explique...
Vous étiez à l'Embar aussi, hein, chez les Michelin.
Oui, alors j'allais tous les week-ends, pendant 3 ans, j'allais à l'Embar, chez la famille Michelin, où je faisais des extras pour payer un petit peu, oui, mes à côté. Et donc, je suis, évidemment... J'étais un peu considérée comme une enfant de la famille. Et je me souviens de mon premier extra, donc j'avais 16 ans. Et puis, je devais porter un café à une table. Et ça faisait peut-être 3 mois que j'étais à l'école hôtelière. Et j'ai renversé ce café sur un client. Et le papa Michelin, et je me suis mise à pleurer, évidemment. Et le papa Michelin est venu
vous
à mon
consolé.
Secours, il
ouais.
m'a consolée.
Ouais, ouais.
Parce qu'évidemment, je tremblais, j'avais honte, etc. Et c'est comme ça que cette aventure aussi a commencé avec la famille Michelin et Fernand, que je considère un peu comme mon petit frère.
Là, vous êtes très proche. Hein,
oui, avec on s'est retrouvés également après.
Quel
quand
gentil
travaillais.
Garçon.
Ah oui, et puis une gentille famille. Et Fernand, je l'aime particulièrement. Parce que nous avons également travaillé ensemble au club de cavalières. Mmh. Et bon, moi, j'étais en réception à l'époque et lui travaillait en cuisine. Et ce qui explique notre attachement.
D'accord. Alors, on revient au crocodile. Le monde entier a déjeuné ou dîné chez vous au crocodile. Vous avez rencontré tellement de gens, de la littérature au cinéma, des gens simples, aussi des gens qui ont économisé pour venir pour un anniversaire, pour venir manger chez vous. Il y avait pas que le beau monde, il y avait tout le monde.
Mais je crois que ça, c'était peut-être un peu la force du crocodile. Je crois que, évidemment, nous avons accueilli beaucoup de présidents de différents pays, des politiques. Nous avons accueilli des écrivains, des musiciens, des acteurs du cinéma. Mais tout ça, vous le retrouverez dans les
livres. Oui, j'ai remarqué, j'ai vu ça.
Mais nous avons aussi accueilli des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui avaient une petite cagnotte et... Ils avaient ce rêve de venir au crocodile. Nous avons également parfois invité gratuitement des personnes âgées parce que nous avions toujours à cœur d'avoir le privilège d'avoir cette belle maison, mais que ce privilège nous donnait également des devoirs et que nous devions également donner du bonheur. Nous accueillions parfois aussi des enfants handicapés. C'était notre démarche, si vous voulez. Et c'est ce qui a fait un peu la force du crocodile.
Le succès du crocodile.
Voilà, parce que c'était une maison d'amour, je dirais.
Et puis, vous aviez aussi une clientèle locale. Les Steckelbourg sont aussi venus chez vous.
Heureusement, je disais, c'était notre clientèle de base.
De base, oui.
Et je dirais que dans les moments difficiles, les Strasbourgeois étaient toujours là. Et c'était leur maison, parce que nous avons accompagné des familles entières avec des baptêmes, des communions, des fiançailles, des mariages, et aussi dans des chagrins.
Vous savez, c'est vrai.
Beaucoup de familles ont perdu des enfants, ont perdu des parents. Ben écoutez, moi, encore aujourd'hui, pour moi, c'est un besoin, lorsque je suis disponible, d'aller
vers
l'obsèque, voilà, ouais, de gens qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont aidés à maintenir le niveau de cette maison.
De cette maison. Voilà. Alors, on va reparler un peu d'Émile, parce que Émile était vraiment un vrai poète en cuisine. J'ai tourné quelques émissions à Goethe avec Émile, et il avait toujours un phrasé, une ponctuation, disait souvent, avec respect, le produit « koch immer zärtlich ». Il était toujours élégant devant son piano, hein, toujours sur son 31.
Oui, parce qu'il disait toujours, Émile, c'est vrai, c'était... D'ailleurs, vous savez, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Je ne pense pas qu'Émile serait peut-être devenu cuisinier si son père n'était pas décédé quand il avait 17 ans.
Wow.
Son père est mort à 50 ans.
Wow.
Et si vous voulez, le départ de ce papa l'a précipité un peu dans le métier. Parce qu'à l'époque, il était à Saint-Jean, à Colmar. Il se destinait peut-être pas du tout à ce métier. Et puis voilà, le malheur du départ de ce papa.
De son père, oui.
Et voilà, c'est comme ça qu'il est rentré. Et puis, heureusement, parce qu'Émile avait le goût, ce qu'il a toujours distingué, ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, que c'était un des premiers saucier de France.
C'était un grand saucier, on allait venir,
ouais. Oui, oui, oui.
Pas un sorcier, un saucier.
Un saucier, oui. Et donc, si vous voulez, il a commencé à mettre les pieds dans ce métier, d'ailleurs à la Maison Rouge. Et puis après, bon, il est allé très souvent aussi à Lyon, où son grand maître, M. Roucou, l'a initié, si vous voulez, à la crème, au beurre, au beurre d'écrevisse.
Et je me souviens aussi que Émile, avec tout ce qu'il faisait, il parlait souvent du vin, que le vin, c'était le génie de la cuisine.
Absolument. Comme il disait que c'est le produit qui a du talent.
Qui a du talent.
Il disait toujours que c'est vrai, le vin donne du génie à la cuisine. Mais il faut aussi dire que Émile, à Masevaux déjà, s'était passionné déjà pour le vin. Et il a rencontré un jour Jean-Marie Stückel.
Ben oui.
Et qui est devenu un ami. Et tous les deux, qui étaient passionnés, ils ont passé des concours de sommellerie. Et Émile était un des rares cuisiniers qui est passé sommelier.
Sommelier, oui.
Oui. Et donc, si vous voulez, cette passion entre la cuisine et le vin a donné, si vous voulez, une dimension autre à sa cuisine.
C'est vrai,
voilà.
Que l'un ne va pas sans l'autre.
L'un ne va pas sans l'autre, c'est vrai. Et Émile aimait toujours cette petite pointe d'acidité que donnait un vin ou que donnait quelques gouttes de citron. Et quand vous avez ça dans une sauce, vous ne vous lassez jamais de la goûter. Parce que le palais est toujours vierge, il n'est pas empâté, si vous voulez, par trop de matière grasse. Et donc, c'est ce qu'il a toujours distingué. D'ailleurs, quand il était quelque part dans un banquet, il avait toujours sa cuillère dans sa poche.
Mais oui, ça, je me souviens. Il avait toujours une cuillère.
D'ailleurs, vous la retrouverez...
Oui, ouais, dans le livre.
Non seulement dans le livre, mais dans le trophée.
Dans le trophée, maintenant. On en parlera un peu plus tard. Oui. Alors, je me souviens aussi de quelque chose, parce que le temps passe, Monique. On avait tourné une émission à Europa Park avec votre mari, avec le charmant Émile. Et tous les deux, on était dans des trains comme ça, en hauteur, de Léonard de Vinci. On était comme des gamins, quoi. Euphoriques. On avait fait une belle émission avec lui.
Mais pas seulement dans les trains, parce que je vous ai vu dans des balançoires.
Dans des balançoires.
Comme des gamins, heureux. Ouais,
on s'était bien amusés.
Oui, il faut dire qu'Émile a passé vraiment, je crois, une époque merveilleuse avec les Macs, qui sont des gens extraordinaires.
Ouais.
D'ailleurs, un des fils, Thomas, est venu à un moment donné travailler chez nous. Et le père était très strict.
Ah oui.
Il avait bien insisté que son fils devait aussi bien laver les carreaux que
faire
nettoyer
tout, hein.
Le sol.
Bien sûr, mais
ils n'ont pas été ménagés. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que ce sont de dignes successeurs. Ouais. Parce que le père les a préparés
à
prendre un jour la totale direction.
Parce qu'il y a quand même, c'est un succès immense.
Ah oui, oui.
Europa Park, c'est extraordinaire.
C'est impressionnant.
Ah ouais, c'est impressionnant. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait.
D'ailleurs, Émile y a collaboré pendant très longtemps.
Ouais, je me souviens.
Et moi, je dois dire, après, quand nous étions à la retraite, il a encore pu animer plusieurs fois des soirées au moment de décembre, quand ils faisaient leur fameux dîner de gala autour de Noël. Et moi-même, je l'accompagnais, évidemment, je le pilotais. Et j'adorais me promener dans le jardin
voir
toutes ces illuminations, toute cette beauté, cette magie de Noël. Il m'arrivait souvent de croquer une saucisse auprès d'un brasier. Écoutez, j'étais même seule, j'étais heureuse. Et les Macs, je leur en serais toujours reconnaissante.
Bien sûr. Et alors, je connaissais des gens qui étaient reconnaissants vis-à-vis de vous et d'Émile. Je me souviens d'un reportage que j'ai fait à Barville, à l'Arbre Vert, chez Mathieu.
Ah oui.
Et Mathieu, devant son piano, il a un portrait d'Émile. C'était son dieu vivant, quoi. Mm-hmm. Et il en parlait il disait « Monsieur et Madame », il disait pas Émile ou Monique. Mmh. Il y avait tellement de respect, ouais. Quoi. Comment ça se fait qu'en cuisine, il y a ce respect et pas ailleurs ?
Bah, écoutez, je pense que je crois que chaque patron ou patronne a sa personnalité.
Et je crois mais en cuisine, c'est particulier. Je pense pas que dans un bureau, à la cité administrative, on dit on cire les ponts. Enfin, on est tellement tellement reconnaissant vis-à-vis de son patron ou de son contrôleur ou de son chef de service. Là, c'est autre chose.
Mais vous savez, je crois, bon, d'abord, je reviendrai aussi pour dire que c'était une autre époque. Et je crois que nous n'avions pas d'enfants. Et je pense que nous avions créé une relation familiale avec nos collaborateurs.
On va juste écouter un peu de musique pour un enfant, parce que Thomas va nous mettre prendre un enfant à la main, ce que vous demandiez tout à l'heure, Monique. On va l'écouter en quelques secondes pour rappeler un peu ça. C'est beau, hein, prendre un enfant par la main. Vous vouliez parler tout à l'heure d'enfant, Monique. Vous vouliez
dire quoi ? Écoutez, oui, voilà. Je voulais dire que, bon, effectivement, nous n'avions pas d'enfant. Mais le crocodile, c'était notre famille. Et tous nos collaborateurs étaient nos enfants. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir à la fois cette relation de cœur et qui allait au-delà du travail. Parce que le fait de leur accorder notre confiance et notre présence a fait que tous nos collaborateurs, vous le trouverez d'ailleurs à travers tous les témoignages, ont toujours dit que le crocodile, c'était pas une affaire. Le crocodile, c'était une maison et que nous étions un petit peu leurs parents. Et vous savez, nous avons eu tellement de jeunes qui sont arrivés, qui étaient... Ben oui, à l'époque, il y avait encore le pré-apprentissage. Des enfants qui avaient 14 ans. Il fallait forcément les prendre par la main. D'abord, les familiariser avec ce métier, surtout en cuisine, où ce n'est pas quand même un métier très tendre. Il y en a plus d'un qui pleurait, qui ne voulait pas rester. Et moi, je les prenais après, dans mes
sympa,
bras.
Chouette.
Et je les consolais.
Une vraie maman, quoi.
Et je leur donnais confiance en disant qu'il fallait qu'ils soient patients. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, il y en a beaucoup qui sont étoilés.
Qui sont,
et il y en a qui ont des responsabilités dans de grandes affaires dans le monde entier.
Et justement, on allait parler des larmes du crocodile, des étoiles, et un jour, il y en a une qui s'est envolée. C'était une grande tristesse à Strasbourg. C'est comme si une chape nous tombait sur la tête, quoi.
C'était une grande tristesse pour nous.
Et pour tous, je veux dire.
Pour tout
on
le
était
monde.
Tous malheureux,
oui.
Quoi.
D'ailleurs, je crois que dans le livre, vous trouverez une petite anecdote qui est rapportée par Guillaume Robuchon, qui était aussi sommelier chez nous pendant 13 ans. Et j'ai appris ça à travers le livre. Qu'un samedi soir, Guillaume était dans le bureau avec mon mari. Le téléphone sonne, Émile prend le téléphone. Il voit son visage qui change.
Il blémit.
Il ne parle pas. Et au bout d'un moment, il dit au revoir, monsieur. Il raccroche. Et il dit à Guillaume, on a perdu la troisième étoile.
Waouh.
Guillaume évidemment, a vu qu'il était
effondré.
Et Émile lui a fait promettre qu'il ne dirait jamais rien de ce qui s'est passé dans ce bureau.
Ah oui, d'accord.
Et donc, il ne voulait déjà pas que le service soit perturbé un samedi soir où nous étions complets. Il ne voulait pas que le personnel soit dérangé et que les clients pâtissent de tout ça. Et donc, Guillaume n'a jamais rien dit. Et moi-même, Émile ne me l'a jamais dit, rendez-vous compte. Je l'ai appris à travers ce livre.
Mais en fait, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en Alsace, on a encore perdu des étoiles. Est-ce que vous pensez qu'en Alsace, on est les mal-aimés? Qu'est-ce qui se passe avec ce guide, ce guide rouge? C'est quand même pas normal, franchement, que Westermann perde une étoile, qu'on n'ait pas trois étoiles ailleurs. On est les mal-aimés, c'est pas possible.
Écoutez, je crois que moi-même, j'étais effondrée lorsque j'ai entendu ça et j'ai immédiatement réagi.
Vous avez appelé le bureauiste, Eric Westermann.
Oui, tout de suite, Eric. Et puis,
c'est triste pour lui.
Et je trouve que, franchement, bon, je connais quand même beaucoup de maisons et je peux vous dire que...
Il a une belle maison.
Il y a un coup près qui est
absolument
tombé,
absolument.
Qui est absolument injuste. Et je leur dis encore une fois aujourd'hui que je suis solidaire avec eux. Je sais ce que c'est, le chagrin.
Mais Monique, la nouvelle direction du Michelin, d'ailleurs, ça se vend quasiment plus, ça se vend beaucoup moins. Et deuxièmement, je me demande si ces énarques, qui sont maintenant les dirigeants, s'ils ont été biberonnés au McDonald's, parce est-ce qu'ils savent ce que c'est de manger? Franchement.
Écoutez, je n'aurais pas la prétention de les juger, mais je dois vous avouer que vraiment... Ce nouveau guide Michelin m'interpelle. Et je ne comprends pas qu'on puisse tellement pénaliser l'Alsace, alors qu'il y a tant de vérité
bien
en Alsace,
sûr,
il y a tant d'honnêteté, tant d'intégrité, et tant de gens qui font bien leur boulot. Et ces deux collègues qui ont perdu leur étoile.
Alain Barbastien.
Oui, ils me font beaucoup de peine.
Moi aussi.
Mais je
moi
leur aussi. Dis... Courage, lorsque ça nous est arrivé, nous avons rebondi.
Oui, mais quand c'est perdu, c'est perdu. Regardez Marc Hébernat, il n'a pas repris une troisième étoile pour l'instant.
Je crois que Marc a toujours aussi encore beaucoup de chagrin.
D'ailleurs,
Émile est parti, je pense, en emmenant ce chagrin. Moi, je vous avoue sincèrement,
mais vous savez, Monique, là-haut, il est dans les étoiles. Il a toutes les étoiles dans sa poche maintenant.
Ça,
il les a toutes. Il n'a plus besoin d'attendre quoi que ce soit.
Et je suis certaine que tous ces chefs qui sont partis, comme les Hébernat, les Droit-Gros, les Chapelle, qui étaient un petit peu nos maîtres, eh bien, je suis sûre que de temps en temps, ils doivent faire la fête.
Ok. Bah écoutez, en fait, c'était une vraie fête de vous accueillir, Monique. Le temps s'est écoulé. On a presque papoté 30 minutes. C'est un moment très, très agréable et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre livre, beaucoup de dédicaces. Et merci d'être vous, d'être la femme du crocodile, celle qui l'a dompté pendant de nombreuses années. Merci d'être venue à la radio.
Merci
Bonne chance.
Dédé. Merci aussi à toi de m'avoir invitée.
Ah bah c'est un grand plaisir.
Et puis bon, j'espère que les auditeurs... trouveront un intérêt peut-être à se procurer ce livre parce que c'est quelque chose qui sort
du commun.
Voilà.
Merci Monique, à bientôt.
Merci Dédé, au revoir.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.